dernier axe, l'esprit de la plante, j'ai trois petites histoires, mais rassurez-vous, je vais aller vite et j'en développerai surtout une. Et je pensais éventuellement que tu pouvais parler de la chlorophylle à ce moment-là, si tu le sens. Mmh. Mais, alors, ça peut être une option. Hein. Tu te décideras au dernier moment. Parce que c'était dans l'esprit de la plante, justement par rapport à ma première petite histoire qui parle de femme-plante. Hein. Et c'est dans ce petit livre d'un de nos amis décédé aujourd'hui, Aimé Michel, un philosophe chrétien, qui s'appelle Métanoïa, phénomène physique du mysticisme. Il développe toute une série de phénomènes tout à fait particuliers. Alors il y a un phénomène que j'ai appelé les femmes-plantes, parce que c'est un phénomène très particulier, c'est les jeûneuses absolues. Hein, c'est surtout des jeûneuses, il y a très peu d'hommes, c'est-à-dire presque exclusivement des femmes. La question que je pose, c'est peuvent-elles être considérées comme des femmes-plantes, c'est-à-dire possédant un métabolisme analogue à celui de la plante. Alors résumons, d'après les termes d'Aimé, la doctrine indienne du jeûne total. Alors on trouve ça en Europe, notamment chez les saintes, mais pas seulement, mais on trouve ça aussi en Inde, on trouve ça un peu dans le monde entier. Hein. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un jeûne total? C'est une personne qui ne veut pas s'alimenter du tout pendant de très longues durées, 10, 15, 20, 30 ans, et parfois pas boire du tout non plus. Hein. Donc, il peut y avoir...
C'est un être humain.
Oui. Des êtres humains. Des femmes.
Mais il y a eu des hommes. Mais
il y a eu peu d'hommes, mais surtout des femmes. Alors je vais donner quelques citations, après vous pourrez étudier les dossiers. Alors, résumons donc la doctrine indienne du jeûne total, l'ascète abstinent. Alors, les Indiens sont un peu machistes, donc ils disent l'ascète abstinent, ils devraient dire l'ascète abstinente, parce que c'est surtout des femmes. Hein. Tire sa substance de la respiration, grâce à l'activité d'un organe situé quelque part à la hauteur de la gorge, par la transmutation de la substance commune à tous les corps physiques. Donc ça c'est la doctrine indienne, Metanoïa, donc page 199. Voilà, donc il faudrait travailler. J'ai un gros bouquin que je n'ai pas encore lu sur les métamorphoses d'humains en arbres et d'arbres en humains en Inde. Hein. C'est assez courant comme phénomène. Et je n'ai pas encore lu, mais c'est un thème qui est traité par la philosophie indienne et pas seulement par la religion. Je pense qu'un jour, ça sera intéressant de faire peut-être deux journées entières rien que sur cet aspect-là des métamorphoses plantes humaines en Inde. Alors, juste quelques petits extraits pour vous donner une idée du dossier, et après vous irez le lire. Hein. Donc, premier exemple, Thérèse Neumann ne mange plus depuis le 30 septembre 1927, nous sommes en 1933, et se porte néanmoins fort bien. Depuis 1927, Thérèse n'a absorbé aucune nourriture, même pas une gorgée d'eau. Hein. Ça, c'est une description de Leschler, qui est quelqu'un qui l'a observé et qui fait ce rapport. Et cela sans perte de poids ni donner de signes de fatigue. Ce fait peut-il aussi résulter d'une cause mentale? Si les stigmates de Thérèse, elle a également des stigmates, peuvent être expliqués par l'autosuggestion, la conclusion s'impose d'elle-même, son abstinence de nourriture a une origine analogue. Bon, ça après c'est le problème de l'interprétation, hein, mais tenons-en au fait. Alors ensuite, nous avons Joséphine Durand, une jeune fille suisse catholique. Le rapport est rédigé par plusieurs médecins suisses calvinistes. Au moment où ils examinent la jeune fille, elle ne mange plus depuis 4 ans. Elle non plus ne peut plus rien avaler d'autre que l'hostie consacrée. Alors, elle aussi est paralysée dans son lit. Les médecins qui l'étudient constatent que les viscères de son abdomen semblent s'être résorbés ou aplatis. Le pot du ventre est collé contre la colonne vertébrale.
Mais elle bouge pas.
Et elle se trouve... En général, ces jeunes femmes ne sont pas du tout... affectées psychiquement, elles marchent à part. Alors, on a même certains cas de jeunes absolus qui se déplacent et qui marchent dans une activité normale. Elles ne bougent plus du tout. Hein, et donc elles sont comme les plantes, elles ont une activité
végétative.
On va dire végétative. Le prototype de ces phénomènes humains, autre exemple, c'est l'américaine Molly Fancher qui vécut sans rien manger presque tout le dernier tiers du 19e siècle et fut visitée et observée par une foule de savants. Née en 1848, ayant perdu tôt ses parents, elle est recueillie par une tante habitant Brooklyn. Tout ça, c'est des dossiers très précis. Hein. Frappée par la tuberculose, elle devient invalide en 1866 et dès lors ne quittera plus son lit jusqu'à sa mort survenue vers 1900. Ses membres inférieurs se tordirent peu à peu sous son corps et s'atrophièrent, chevilles tirées à contresens, plantes des pieds tournées vers le dessus. Un de ses bras était paralysé ou plutôt figé, comme de bois, par-dessus sa tête. De plus, elle perdit la vue. C'est dans cet état qu'elle resta jusqu'à la fin de sa vie dans une chambre obscure de l'appartement de sa tante. Molly était une fille aimable, gaie, en dépit de son atroce déchéance physique, très pieuse, protestante. Son jeune quasi-absolu fut l'objet d'une violente polémique où l'on revit s'opposer les mêmes attitudes et les mêmes arguments qu'à propos des stigmates de Louise Lato, d'un côté les attestations des médecins qui l'observaient, oui. Et de l'autre les sarcasmes de ceux qui dénonçaient la supercherie, mais sans se déranger pour la démasquer. Mmh. Voilà. Donc voilà.
Ça a été repris hein, par tout, enfin, tout un mouvement New Age. Hein. Aishin.
C'est les rêves pyramistes.
Ouais. Alors, lui a étudié cela au 19e et au 20e siècle. Il n'y a pas, au début du 20e, hein, donc, mais il n'y a pas de régions plus récentes. Mais
actuellement,
oui,
actuellement, il y a Little Buddha, ouais. Les Little Buddha, jeune homme en Inde, qui depuis plus d'un an maintenant, le documentaire a été fait. Oui. Lotus.
Voilà.
Et là, tout le monde peut venir. Alors,
c'est ça. Il y en a qui disent. Voilà, mais c'est ça. C'est ça. Mais il y a tellement de dossiers et parfois.
Il ne mange pas.
Non, il ne mange pas, il ne boit pas.
Alors, il ne travaille pas.
Il est isolé aussi parce qu'ils ont fini par monter des grillages.
Oui.
Parce qu'il y a une foule qui vient l'adorer.
Alors, Giribala, par exemple, la sainte indienne. Lorsque le yogi Paramhansa, alors là on sait déjà tant qu'un lien, Yogananda la visita en 1950, elle était âgée de 68 ans et n'avait plus absorbé la moindre nourriture ni solide ni liquide depuis l'âge de 12 ans et 4 mois, soit pendant 56 ans.
Bon. Ça fait un bail, hein.
Mais ça leur sert à quoi hein.
Mais alors écoutons-la, mère lui demandait, elle te répond, mère lui demandait doucement à quoi sert hein. Que vous soyez singularisé en vivant ainsi sans nourriture.
Voilà.
Tu vois, elle te répond, à prouver que l'homme est esprit. A montré que par le progrès vers Dieu, by divine advancement, bon, par le progrès, par l'avancement vers Dieu, l'homme peut apprendre à vivre de lumière divine.
Voilà.
Alors c'est là où
c'est
le rapport avec la plante est
intéressant.
Et non de nourriture.
Oui, alors, il y a pas, de,
pas, cas, pas en Europe. En Europe, tu as des cas.
En Europe, il y a,
d'accord. Il y a des cas. En Inde, dans les exemples qu'ils donnent, c'est toujours religieux. Mais en Europe, il y a des cas où les gens ont une éducation catholique, mais ce n'est pas des saints, c'est pas. Voilà. Voilà, il y a cette explication indienne, hein, c'est-à-dire le fait qu'il y aurait un organe situé quelque part à la hauteur de la gorge qui, par la transmutation de la substance commune à tous les corps physiques, permettrait de vivre. Voilà. Donc la question que je me suis posée, c'est, bien entendu, on accepte que...
Organe
qu'on a tous.
Cet organe,
on a écrit dans les textes sacrés mythologiques bouddhistes.
C'est ça. C'est ça.
Mais est-ce qu'on l'a tous?
Oui.
Et on peut visiter des. Dans le bouddhisme, ça va plus loin, c'est qu'ils se momifient vivants. En étant en fait bouddhisme japonais.
Mm-hmm.
C'est dans le bouddhisme Shingon. Il y a très nombreux cas de moines qui se sont fait enterrer vivants, dans un tombeau.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Ouais.
Alors ça, on voit au phénomène des saints incorruptos.
Ouais.
Hein, il y a beaucoup de saints qui sont morts incorrompus, dont le corps s'est momifié, et qui sont restés pendant plusieurs siècles.
Et que tu peux toujours voir
en état de momie.
C'est ça.
On peut visiter par exemple San Diego de Alcalá, j'ai même fait un film dessus parce que c'est un des saints patrons de Nunquini, un village maya. Donc j'ai été à Alcalá, une banlieue de Madrid, et tous les ans, on sort le corps momifié de San Diego de Alcalá, qui est mort il y a 4 siècles.
Mmh. Qui est absolument pas corrompu, si tu veux, c'est la peau sur les os.
De la corruption, alors voilà.
C'est quoi l'analogue végétal de ça?
C'est ça.
Alors, la question que je me pose, c'est comment... La question que je me posais, c'est comment ces personnes s'alimentaient. Et je prenais au sérieux l'explication de la lumière divine, et je me disais, là, est-ce qu'on n'avait pas un phénomène qui était analogue précisément à la simulation
corruptionnelle,
où effectivement là...
Enfin, tu te disais, c'est que dans les textes, c'est décrit de cette manière,
parfait.
C'est-à-dire que donc, l'alimentation donc, n'est hypothèse... plus que d'air et de lumière.
Donc mon hypothèse était exacte, voilà,
absolument,
je me le disais,
absolument.
N'ayant pas l'information que tu as.
Donc c'est pas vraiment végétal, quoi.
Voilà.
Il vient de voir à l'instant que dans le végétal, c'est une symbiose avec l'environnement, qu'il y a une communication qu'on ne peut pas empêcher, etc., etc., donc ça me semble... complètement opposé au végétal. Toi, ton little Bouddha, il est enfermé dans un... On empêche la communication, il n'a pas de...
Non, on n'empêche pas la communication.
Il communique avec les esprits autour de lui. C'est-à-dire que spirituellement, il est en communication avec l'ensemble des...
Oui, c'est ça, je pense.
Il y a des médiateurs, il y a des gens qui le voient.
Synthétise.
La synthétise, la matière qui appartient...
Par la transmutation de la substance commune à tous les corps physiques.
La substance commune à tous les corps.
Bah, c'est, moi, je me dis que c'est...
Pas, c'est se nourrir pour, de l'air, de transformer l'air, en fait, c'est une capacité de transformer l'air
les plantes, en nourriture. C'est très réducteur de réduire les plantes à leur...
La raison.
Bien sûr, ah, oui. Ouais.
Là, on vient d'en parler juste avant, avec le réseau de mycorhizes, avec les bactéries, avec les champignons, le fait qu'une plante, ça n'existe pas tout seul, une plante, ça existe dans son écosystème.
Si, si, ça existe chez un pépiniériste, elle n'a rien de tout ça.
Ah, mais elle a des produits chimiques.
Ah oui.
Non, non, dans notre balcon, je suppose, on en a plein. Enfin, mais bon, après, c'est, elle se porte beaucoup mieux avec tout ça. Mmh. Bon, ça mais son, physiologiquement, elle n'est pas, ce n'est pas vital.
Mais tu vois, on
c'est
pourrait...
Pas vital, la mycorhize n'est pas vitale à la survie de la...
On pourrait très bien dire...
Ça trouve l'azote, les plantes.
Elle va donner une durée, une...
Dans l'atmosphère. Non, je ne sais pas, je pose la question. Est-ce qu'elle peut.
Il y a quelques plantes comme les légumineuses qui arrivent à
rentrer en symbiose précisément avec des bactéries. Ça. Et sinon, il faut qu'on le ramène. Il faut qu'on mette de la merde d'oiseaux, des trucs comme ça.
C'est une théorie qui dit d'ailleurs que des fois, en fait, mais c'est un peu tirer le palais des cheveux à mon goût, mais Lise, pour montrer justement cette idée d'intelligence des plantes, c'est que les plantes, en fait, elles ont réussi à adapter une position qui fait qu'en fait, c'est nous qui leur apportons ce qu'elles ont besoin. Comme par exemple, nos plantes vertes, on leur donne de l'eau, on les cajole, on les déplace si on voit qu'elles ne sont pas très bien par rapport à la lumière du soleil.
C'est pas une majorité.
Non, bien sûr, je ne généralise pas.
Ça, je le dis dans mon deuxième livre, tout ça. Ça, je l'explique sur des pages et des pages et des pages. La main verte et la main noire. Le côté pervers, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui achètent des plantes par l'auréole pour... bien souvent, parce que c'est cher et pour épater la galerie, c'est comme un meuble qu'on achète
hors de prix.
Voilà. Et cette plante ne peut pas nourrir ces gens-là parce que ça, il n'y a pas de communication. Et donc la plante, aussi belle qu'elle soit, aussi chère qu'elle soit, elle va déflorer. Et ça, l'être humain est assez pervers pour dire. Faut dire cette plante, mais finalement on m'a filé une merde. C'est tout parce que c'est dans l'ego humain, c'est jamais la faute de soi, c'est toujours la faute des autres. Et ça j'ai remarqué dans les mises à l'arbre, quand ça marche pas sur quelqu'un, parce qu'il n'arrive pas, la condition sine qua non principale de la mise à l'arbre, c'est de faire abstraction de tout et d'enlever surtout le je veux exiger, de dire voilà je vais là, et puis de se faire, et tu commences à te faire un cinéma et tout ça, je peux en parler longuement, parce que ça je connais ça mieux que quiconque, parce que je le vis. C'est le même principe que la main verte. L'arbre, il t'accepte, ça se mérite. Suivant ce que tu es, il t'acceptera ou il ne t'acceptera pas. J'ai un autre arbre aussi, le frêne à double tronc, il a une particularité qui est indéniable, ça fait des années que j'ai travaillé ça. Il n'a jamais accepté un homme. Et il y avait les femmes, alors... J'ai un mélange, il invite à danser, les gens. Tu te rappelles, Latifa, tu le connais, qui tout
d'un coup... Il a fait terminer sa thèse avec moi, qui l'a
soutenu. Et qui dit comme ça, mais il est fou cet arbre. Et Michel lui dit, mais pourquoi tu dis ça? Il veut me faire danser le tango. il voulait à tout prix. Et c'est tombé sur un Asiatique. Bon, voilà, encore, dans le tango, ça va, mais un Asiatique, c'était beaucoup demandé. Hein,
parce que Vlad n'est pas Asiatique.
Non, mais un Asiatique. Frédéric Atom est Asiatique. Et il voulait à lui aussi lui faire danser le tango. Pourquoi?
Mais j'arrive pas à comprendre très bien. Comment tu comprends tout ça? C'est-à-dire que tu vas vers l'arbre, j'arrive pas à comprendre la démarche.
Parce que je fais écrire les gens.
Il va nous développer ça dans un petit moment.
Ah mais j'ai
tout à l'heure on va lui donner la parole.
J'ai de la documentation qui est solide.
On va lui donner la parole, il va avoir 20 minutes pour le développer.
Mais en tout cas, moi j'aurais quand même.
Rien ne vient de moi. Moi je ne suis pas quelqu'un qui analyserait. Oui. Oui.
Par rapport à ce que toi tu nous proposais comme analogie, tu vois, Emmanuel, tu sais, ces gens qui ne mangent pas. C'est à l'école des plantes que j'en ai entendu parler pour la première fois, donc c'est marrant, l'association, moi, ne me gêne pas, parce que c'était ma prof médecin, elle était absolument fascinée par l'idée que des êtres humains puissent être capables, en quelque sorte, de cette synthèse chlorophyllienne qui fait que, bon, non mais, je... Et moi, à mon avis...
Certainement pas une synthèse chlorophylle.
Non, mais bien sûr que non. Mais si tu veux, elle était d'être comme les plantes. Voilà. C'était comme les plantes. Mais moi, je pense que c'est peut-être pas... C'est pas, en tout cas, quelque chose qu'il faut prôner comme un idéal. Si, c'est pas du tout... Si, et c'est ça que... S'il y a des gens qui, comme les noms que tu as cités, sont nés en cette inspiration qui leur naît et puis qui s'y marche et... Moi, je trouve que voilà, c'est pas la peine non plus de réfuter en disant que c'est pas possible, parce qu'il y a plein de choses qu'on ne sait pas. Et quand tu parlais de liens, mais c'est sans doute pas ça que tu voulais dire, mais ces gens, moi, je pense qu'ils sont vraiment très, très reliés, parce que c'est souvent des gens très croyants. Donc, en fait, ils sont dans un système, tu vois, de racinaires, de météorites qui sont au niveau de leur... Enfin, c'est comme ça que moi, je le comprends. Ils sont vraiment en lien avec les autres, souvent avec un dieu, souvent avec... Et voilà, c'est un peu les saints et les saintes.
Et c'est plus des femmes, d'ailleurs. Voilà. Ça peut aussi se
comme ça. Après, moi, ça ne sera jamais mon truc.
Mais ce que tu dis est très juste. Hein. C'est ce que mon interprétation, enfin, telle que je la propose...
C'est un élément de réponse à ma question. Là. Il y a une forme de communication. Moi, j'accepte l'idée qu'on ne puisse pas tout expliquer. Qu'on
c'est
puisse,
ça.
Avoir accès à d'autres formes d'énergie que nous n'avons pas... Ça ne me pose pas de soucis. Voilà, ça ne me pose pas de soucis. Mais c'est juste que je voulais me pointer ce fait que quand même, ce dont on a parlé juste avant au sujet des plantes, c'est quand même au contraire un système d'échange matériel très explicite avec plein d'autres espèces, plein d'autres. On n'est pas dans une sorte de pureté.
Non.
D'ailleurs,
ce que dit Pascal, c'est important, c'est-à-dire que l'esprit, c'est aussi de la matière, c'est-à-dire qu'il n'y a pas cette division entre d'un côté l'esprit et la matière, et que justement, le propre de l'être humain, parce qu'on parle du devenir végétal de l'être humain, mais aussi du devenir animal, du devenir minéral et du devenir astral, bon là, quand j'avais élaboré moi ce travail-là, il y a une vingtaine d'années, j'avais cette tétralogie dans l'esprit, et elle n'est pas limitative, c'est parce qu'on perfectionne, je pense que l'être humain a la capacité, parce qu'il est quelque part, je le dis en termes mythiques, hein, parce qu'il est l'enfant à la fois de la plante, il est lui-même un animal, l'enfant de la pierre, l'enfant de l'as, qui a la possibilité de perfectionner certaines des on va dire des pouvoirs, des capacités que lui ont transmis les plantes, les animaux et les végétaux. Et je me demande si ces femmes n'ont pas perfectionné quelque part une certaine aptitude du végétal à profiter de la lumière et de l'air pour se nourrir. Et comme le dit Pascal, à ce moment-là, avec leurs pensées, ont développé un réseau de mycorhizes spirituelles qui leur permettent de créer des liens avec les autres. Parce que précisément, ce qui nous fait comprendre cette histoire-là, il faut justement qu'on arrête de dire que la pensée est autre chose que la matière. Hein. La pensée est quelque chose ici d'extrêmement matériel, très concret. Mais bien entendu, pour l'instant, nous sommes très loin de savoir exactement de quelle manière la pensée se matérialise autrement que par le langage, par effectivement des formes d'expression.
Toi, vous avez compris que moi, je suis passionné par la notion de symbiose, qui, je pense, est extrêmement riche et complètement sous-exploitée. C'est même presque mathématiquement, on pourrait en parler de ce point de vue-là. Mais ça me gêne de parler, par exemple, d'un être humain. Sans parler de tous les choses symbiotiques avec qu'on a mentionné tout à l'heure. Hein. Et donc ces personnes-là, si on les considère comme des êtres humains comme nous, doivent être c'est difficile de les imaginer sans la flore de leur peau, de leurs intestins et toutes sortes. Et donc des fluides, des règles, des choses comme ça, des cycles, des choses qui.
Je ne comprends pas bien pourquoi tu as fait cette opposition. Et de dire que, je parlais du dieu le Bouddha ou de ces femmes, ils étaient coupés du reste. Non, ils ne sont pas, comme je le disais, dans un pot, parce qu'en plus je disais, oui, elle peut pousser, je sais bien qu'elle ne peut pas pousser longtemps comme ça, toute seule, coupée du reste du monde. Et ces gens-là, ils ne sont pas coupés, au contraire.
Donc, l'exemple que j'avais en tête était plus ancien et qui avait été popularisé, parce que c'est des histoires qui reviennent régulièrement. Moi, quand j'étais gamin, on parlait d'un sage indien qui était resté sur une colonne, pendant des dizaines d'années, des choses comme ça. ça. Ouais, c'est vraiment physiquement isolé.
Physiquement, ça veut pas dire. Physiquement, ça veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres modes de relation. Au contraire, ils en ont des tonnes, quoi. Ils ont une richesse de relation avec le monde qui est extrême par rapport à celui qui est isolé sur son smartphone, quoi. À mon avis, là, il y a.
Les stylites, voilà, c'est des stylites.
Les stylites, les zoroastres.
Ça m'évoque, je ne sais pas pourquoi, le film de Louis Buñuel, mais je sais plus.
Oui, j'étais en train de chercher un texte, mais je n'ai pas trouvé la traduction française de Quimera Rosa, justement, dans leur projet Transplant, qui est ce protocole de. Bon, ils ont déjà commencé la transfusion des chlorophylles. Et cette année qui vient, ils expliquent cette transition, parce que c'est un protocole, un peu comme si c'était une transition homme-femme, femme-homme, avec des hormones, mais là, c'est avec de la chlorophylle. Et ils expliquent très clairement qu'il ne s'agit pas d'un processus pour devenir plante, mais pour être moins humain. Et puis pour incarner dans un processus de transition, est-ce qui arrive aussi avec les processus transgenres, que ce n'est pas un processus individuel mais collectif. C'est-à-dire à chaque fois que quelqu'un change de genre, ça ne le concerne pas qu'à lui, ça concerne toute sa communauté en fait. Mais je ne l'ai pas trouvé, parce qu'il l'explique très bien. Mais
c'est important, y compris pour toutes les personnes qui ont... Enfin, mon avis,
Il y a eu des cas avérés de gens qui ont fait du déni de... qui en fait mangeaient, effectivement, ça c'est vrai, en prétendant ne pas manger, bien sûr. Mais je pense que là, il y a trop de cas depuis longtemps de gens qui, effectivement, ne sont pas alimentés pour vouloir penser que ça n'est pas juste. Mais ils étaient, à mon avis, liés à leur communauté d'une manière aussi
de toute manière, étant donné depuis le temps que ces êtres existent, c'est que le fait que ce soit vrai, juste ou qu'il y ait une différence, à la limite, moi je m'en fous complètement. Mm. Pourquoi est-ce qu'une communauté, justement, a besoin de ce genre de mythe?
Là, il y a la question.
Parce qu'ils existent en tant que mythe, en tant que représentant un mythe, de se passer de... Voilà, et ça, c'est ça la question fondamentale.
Qu'est-ce qu'il veut dire?
Pourquoi nous, on a besoin d'avoir des messages comme ça? Ils sont bien en communication.
Je formulais les choses comme ça. Quand bien même on contesterait tous ces exemples, reste cette question fondamentale. Mais je pense que la question de l'existence réelle est également importante. Hein. C'est le problème, est-ce que les airs existent est-ce que les airs existent? C'est Yucatan, c'est-à-dire est-ce que les esprits existent, voilà. Et ça, c'est une question taboue, bien entendu. Hein. En science.
Pas du tout. Ah non, moi, je ne suis pas d'accord.
Tu n'es pas d'accord. D'accord.
Si jamais un scientifique arrive à démontrer l'existence de personnes comme ça, il a des publications dans les meilleures revues.
Non, je parle des esprits. Non, je parle de l'existence des esprits. Je parle de l'existence des esprits.
C'est-à-dire que...
Pas pareil.
Comment?
Je ne parlais pas de ça.
Oui, c'est ça.
Il se refuse quelque part à l'observation, effectivement, ces personnages. Mmh. Enfin, moi, ce que j'en connais, c'est qu'ils sont... S'ils s'isolent, etc. Même Little Buddha, il est tenu à distance. Il se refuse à une certaine observation.
Je m'excuse, c'était pas de ça dont je parlais. Hein. C'est pas de ça dont je parlais. C'est pas des documentaires sur cette personne. C'est est-ce que les esprits existent? Des esprits au sens les fantômes, tu vois? Est-ce que les esprits existent?
Les fantômes, ils existent.
C'est une question en science, c'est une question qui reste taboue pour l'instant.
La plupart des grands scientifiques que je connais, Pierre Curie, Alexis Carrel, etc., c'est des gens qui étaient venus par cette idée.
Oui, au 19e et au début du 20e. Mais après, c'est terminé. Personne ne la pose cette question dans son essai sur les fantômes. Mmh. Hein, il le montre bien. Ça, au 19e et au début du 20e, c'était une question valide. Ça ne l'est plus. Et la question maintenant, c'est est-ce que, avec toute cette pensée des plantes qui redevient à la mode, est-ce qu'on va faire lever à nouveau ce tabou sur la question des esprits? Moi, c'est une question qui m'intéresse.
Moi, j'observe que dans le monde transhumaniste, il y a un peu l'opposé. À partir de l'homme, tu peux aller dans une direction vers les plantes et de l'autre côté vers la technicisation. Et les gens veulent justement cette histoire de créer un esprit artificiel et de télécharger ton esprit dans le réseau, etc. C'est très à la mode. Mm-hmm. Et il y a certainement pas mal de scientifiques, pour le coup, qui au moins diffusent cette théorie, parce qu'ils ont certainement des intérêts à le faire. Mm-hmm. Certainement qui y croient aussi.
Cette idée qu'on peut créer un esprit, on parle d'intelligence artificielle, c'est un mot qui est à ma connaissance récusé par les vrais chercheurs sérieux, c'est un mot qui a une origine historique, donc ça désigne quelque chose qui n'est pas l'intelligence. Mais il y a aussi des gens qui pensent qu'on a créé des entités intelligentes, des esprits.
Mais en tout cas, alors peut-être que c'est ma déformation professionnelle, dans le milieu anthropologique, tu te fais incendier quand tu parles d'esprit. Pour l'instant, on en est encore à penser en termes de superstition et de coutumes particulières des sociétés traditionnelles. On veut bien commencer à penser, et encore, à mon avis, là, je n'ai pas le temps de le développer d'une manière tout à fait vaseuse et tortueuse, comme on pense les forêts, par exemple. C'est une supercherie complète. J'avais préparé un petit essai là-dessus. Je veux dire, ça repose sur une méconnaissance, un mauvais usage de la notion de vie et de pensée. Mais si tu développes cette idée que les esprits existent, c'est-à-dire, mais moi, on m'a souvent fait le reproche, donc je peux te dire, et moi, je me suis souvent heurté, alors, lorsque je développais mes travaux avec les chamans, ou même quand j'ai publié le livre avec Pierre, qui avait été refusé par toutes les éditions scientifiques, on était obligé de le publier dans une édition de parascience, je me disais, mais tu y crois, alors, toi ? Avec un air inquiet, tu vois. Et combien de fois ? Moi, j'ai dit, le problème n'est pas d'y croire. Le problème, c'est qu'il y a d'abord des faits qu'il faut essayer d'établir et après essayer de les interpréter. Ouais. Et l'interprétation, elle reste ouverte.
Non, pour fixer les idées, il y a un des plus grands physiciens vivants, celui en tout cas qui est le mieux doté par les fonds de recherche au MIT, à Boston. On lui a donné des millions de dollars pour fonder un laboratoire de physique théorique. Il s'appelle Max Tegmark, il est d'origine suédoise, c'est une star, vous voyez plein de conférences TED, etc. Il a publié un article qui s'appelle donc la conscience comme un état de la matière. Et donc il a une sorte de théorie où il associe, donc les gens déjà essayent d'étudier sérieusement et scientifiquement le phénomène de la conscience, il y en a plein, et il y en a qui vont jusqu'à associer, donc ce sont des hypothèses, ce n'est pas des choses confirmées par l'expérience, mais les gens publient sérieusement dans des bonnes revues ce genre d'hypothèses, où chaque élément de matière est doté d'une sorte de fonction de conscience, quoi. Et ensuite, par différentes sortes d'effets statistiques, elle peut s'accumuler et devenir macroscopiquement visible dans quelqu'un comme toi.
Comme toi.
Voilà. Ouais. Mais c'est un peu comme les phénomènes de cohérence quantique, c'est un peu le même genre de truc.
Alors,
et c'est très sérieux.
Dans le bouddhisme, on parle d'agrégats. Nous sommes que des agrégats. Les agrégats de conscience, en fait, c'est ce qui fait que le monde n'existe pas si on ne l'expérimente pas à travers la conscience.
Ou conglomérat.
Moi, je suis tout à fait ouvert à ça. On parle d'agrégats. Ce n'est pas mon expérience dans
c'est intéressant. C'est
très intéressant par rapport aux physiciens.
Ouais, mais là c'est Alan Ting, dans son dernier livre,
Le champignon de la fin du monde, comment survivre dans les ruines du capitalisme. Et il parle de ça dans cette nouvelle écologie qui s'est créée et de cette expérience des immigrés de l'Asie du Sud qui cueillent ces champignons dans les forêts de l'Oregon. Il y a un accident qui se passe dans une des tentes. Il y a trois cueilleurs de champignons qui meurent. Et suite à ça, tous les camps bougent parce que chez ces communautés, l'espace est habité maintenant par ces fantômes, donc ils doivent le déserter. En face, il y a une colline sacrée pour les Amérindiens et ils n'y vont pas non plus cueillir des champignons, sauf il y a un blanc, parce qu'il y a quelques blancs qui sont de vétérans de la guerre de Vietnam qui cueillent des champignons, donc il n'y a que lui qui va et qui vient. Mais c'est déjà... Et ça fait partie de la nouvelle écologie que ces gens récréent. Donc elle le constate. Et sa façon de le constater est très belle. Elle dit, il y va parce qu'il n'y connaît rien au fantôme. Donc il va parce qu'il n'y connaît rien. Donc, et ça, c'est une très belle manière de tracer les frontières d'un territoire qu'elle dessine, mais en le prenant très, très au sérieux. Et pas simplement comme un fait ethnographique exotisante.
C'est-à-dire que qui dit effectivement des chercheurs ici et là qui se posent cette question, bien sûr. Le problème, moi je parle de la pensée dominante, courante, et ce qui est admis. Mais j'entends très bien ce que tu dis là. Moi, ce n'est pas mon expérience.
Mais ça a à voir avec les savoirs. C'est-à-dire que là,
maintenant, c'est en train de bouger. Moi, pour l'instant, j'aurais tendance à dire que ça reste un tabou, même s'il y a quelques cas isolés. Mais peut-être qu'aux frontières, chez les physiciens, justement, ça va bouger plus rapidement. Peut-être. Déjà, j'avais lu, moi, des travaux de physiciens il y a 30-40 ans, mais ce n'était pas sur la danse du tarot, etc. Mais ce n'est pas des physiciens qui représentent le mainstream, c'était des physiciens un peu à la marge. Même parfois des prix Nobel, hein, mais qui sont un peu à la marge quand même dans leur pensée. Mais je me trompe.
Donc tu as certainement raison que c'est souvent des gens très célèbres qui, une fois qu'ils sont très célèbres, oui, peuvent donner
l'idée. Ouais.
Oui, c'est comme ça.
Voilà.
C'est la question du savoir dominant.
Ça, d'accord. Moi, dans les discours intra-colloques, j'ai entendu énormément de gens. Non, mais juste pour terminer cette discussion. Dans les discussions intra-colloques, j'ai entendu plein de gens dire qu'ils croyaient en fantômes, mais jamais ils l'affirmeraient dans la discussion officielle. Mais c'est intéressant. On est peut-être dans un moment d'ouverture.
Non, je disais, si Darwin il a commencé à s'intéresser aux plantes et à ce que tu disais,
il l'a fait à la fin de sa vie. Il a évoqué cette question, il l'a fait à la fin de sa carrière et il a repassé le bébé à son fils.
Et en fait, oui, ils ont fait un livre avec son fils, Francis et Charles Darwin. Francis et Charles Darwin.
C'est une question intéressante, des questions de mode, des questions de stratégie.
Mais par contre, ce qui peut être intéressant, c'est que ça pousse dans tous les sens. C'est-à-dire que le fait de reposer la question de l'intelligence du vivant, enfin, j'insiste, parce que justement, c'est ça, pour moi, c'est ça le fond de la question. C'est, enfin, moi, je dis la plasticité du vivant, enfin, c'est pareil. Peu importe, c'est le fait de repenser les niveaux et de repenser qu'est-ce que c'est que l'intelligence, qu'est-ce que c'est que la cognition, qu'est-ce que c'est. Et en ce moment, c'est ça qui se passe. Donc, la question des plantes, elle est prise par les philosophes, c'est par ça. Les anthropologues, c'est par même les juristes, puisque parle de droit des plantes.
Et des droits des animaux.
Voilà. Enfin, donc, le fait que ça soit vraiment multiforme et avec une grosse partie scientifique, avec des faits indéniables, quelque part, après on peut les interpréter comme on veut, mais en tout cas, ça peut pousser, peut-être, peut-être que ça va, enfin après, je ne sais pas, peut-être que c'est une question de décennies, voire de siècles encore, hein, parce que la science, c'est...
Ce que l'intelligence végétale nous amène à penser, c'est-à-dire qu'on est dans le cadre au niveau du vivant, dans le cadre d'une structure qui déborde les frontières du sujet vivant, hein, de l'individu, de l'individualité. Puisque si je prends le cas de l'arbre, hein, mais effectivement ça vaut pour les plantes en règle générale, mais l'arbre est assez emblématique à ce niveau-là, c'est qu'on prend un arbre. En fait, on ne peut pas parler d'un sujet, d'un individu, mais d'un sujet. On ne peut pas parler d'un individu au sens où on sait maintenant qu'il est capable de subir sur son propre corps des mutations génétiques, donc de se transformer génétiquement. Donc en fait, c'est de là que vient l'idée, c'est l'observation de ces mutations internes au propre corps du sujet, que vient l'idée de la structure coloniaire. Donc le sujet serait lui-même une structure coloniaire, mais en réseau avec une structure coloniaire beaucoup plus vaste. Quand on aborde dans ce contexte physiologique la question de l'intelligence décentralisée, dont les bases physiologiques seraient dispersées à l'extrémité de chacune des micro-radicules, voilà, mais en réseau. Alors, l'hypothèse, c'est peut-être par ces phénomènes électromagnétiques et électriques.
Oui, alors justement, j'ai une notion que j'ai pas parlé et qui fait le sujet de deux publications en cours. C'est que nous, avec cette équipe, c'est surtout cette équipe qui a repris un terme qui s'appelle l'électrome. Alors l'électrome, en analogie au biome, au génome...
Et aux fantômes.
Aux fantômes. On n'a pas mis dans la publication.
Il faut voir qu'il y a un...
Il y a un accent circonflexe qui fait que... Mais en tout cas, la notion d'électrome qui a été décrite par de Wolf et qui a été reprise justement par ces chercheurs brésiliens, était effectivement... Parce que la bioélectricité, c'est un phénomène commun à tous les êtres vivants. Et notamment, moi j'ai fait mon article, c'était une dynamique proto-neurale, c'est-à-dire donc justement avant, l'électricité elle existait déjà au niveau des végétaux, largement avant qu'il y ait des cerveaux qui se développent, puisqu'il suffit de suivre l'évolution. Donc c'est un phénomène en fait qui est général, comme le magnétisme, comme, et en prenant ces phénomènes-là, on peut effectivement, ça peut être étudié sur le plan de la physique, ça peut être étudié sur le plan de la biologie. Et tous ces liens vont peut-être faire qu'à un moment donné, je ne sais pas quand,
les
frontières, justement, vont être dans les frontières.
Peut-être
bouger, quoi.
Je voulais en venir à quelque chose. C'est que, non, mais au contraire, c'est super. Voilà, ce sont des éléments. Et voilà, c'est une intelligence collective.
Voilà.
Voilà.
Ramifications.
Des ramifications. Et la réflexion comme sur l'intelligence du végétal nous met en face d'un phénomène, c'est la question l'intelligence ne serait pas propre au sujet, mais une intelligence collective avec des espaces non privatisés, mais de spécificités variables, à géométrie variable. C'est beaucoup plus complexe, beaucoup plus difficile à comprendre, mais beaucoup plus intéressant, parce qu'a priori, en ce qui me concerne, beaucoup plus proche du réel. C'est-à-dire qu'en fait, et par contre, l'humain, ayant une fâcheuse tendance à l'appropriation privative, suivez Proudhon, bref.
Depuis quelques siècles, notre dimension. Dans certaines sociétés seulement.
Ouais, non, bah attends, depuis la sédentarisation, depuis la constitution des empires et des civilisations. Bon, on est quand même sur une centralisation.
Très, phénomène très marginal et qui s'est accéléré lors de ces derniers siècles.
Ouais, ouais, ouais. Bah, ça, c'est intéressant, mais tu vois ce que je veux dire. Voilà.
Bien sûr.
Et du coup, on a tendance à se considérer comme avoir mon intelligence, pas la sienne, etc.
Ouais.
Elle est en confrontation, elle est en dialogue, mais ça reste mais bien, là, par bien exemple, personnel.
On est dans une intelligence collective, là, ensemble.
Voilà.
Tu vois voilà. Là, ce que je trouve excellent, c'est que. Je ne sens pas entre nous cette appropriation. Ça, je sens au contraire une circulation. Ça une écoute de chaque niveau.
On est vraiment dans la transition. Quand on traverse, on va au-delà. Voilà, de,
et c'est un peu l'idée quand même. De construire ce genre de réseau, de venir plante à ce que tu fais, à ce que nous faisons. Et ça, ça me paraît nouveau. Oui.
Alors juste pour quelques anecdotes scientifiques, et les vrais scientifiques spécialistes de neurosciences me reprendront.
Mais je pense que, donc tu demandais, est-ce que tu peux nous en donner un peu?
Oui.
Eh bien en fait, mon cerveau se synchronise avec le tien, et toi, la pensée n'est pas localisée dans cet organe physiologique.
Oui.
La pensée, elle est... là, on a des preuves physiologiques de cette affirmation, pour le coup. On peut étudier les phénomènes de synchronisation entre deux cerveaux, et certainement... plus.
Qui s'est déchargé pour charger qui est assez
plat. Et seconde anecdote que j'ai...
De reste, il y en a qui en ont trop, puis d'autres...
Mais toi, t'en as plein, mais c'est situé dans tes mains.
J'ai lu récemment dans un article, après, c'est pas du tout mon domaine, mais ça m'a vraiment frappé. Les gens s'interrogent comment est-ce que les abeilles font pour transmettre les informations extrêmement précises à 2 km de leur ruche, elles savent indiquer par leur danse à leurs collègues où se trouve telle fleur, à 10 cm près. Donc les abeilles n'ont pas un cerveau énorme, quelques millions de neurones, je crois, maximum. J'ai lu la théorie habituelle, c'est que c'est par la danse des abeilles, etc. C'est certainement une grande partie de l'explication, mais j'ai lu précisément qu'il y a des champs électromagnétiques qui sont produits par cette danse et qui sont captés. Il y a des articles très sérieux, vraiment publiés dans des revues au-dessus de tout soupçon.
Existe-t-elle ?
Je peux vous donner la référence. Et ça m'a beaucoup surpris. Et donc ça présuppose... Donc il y a des choses qui sont émises. Même mécaniquement, on peut penser que le battement des ailes, etc., produit différents trucs. Et après, il faudrait qu'il y ait des capteurs. Est-ce que les abeilles sont douées de capteurs?
Les plantes les appellent aussi.
Et est-ce qu'elles ont des communications électromagnétiques avec les plantes, etc.? Ça pose, ça ouvre toutes sortes de...
Les champignons, on dit que justement, les champignons t'appellent quand t'as touché un truc le peyote.
Il y a une théorie mythologique qui raconte que ce sont les spores qui ont colonisé l'homme et qui lui ont donné son intelligence. L'homme ne serait jamais ce qu'il est si les champignons ne lui avaient pas transmis, ou plutôt si l'intelligence sporique ne s'était pas communiquée, c'est une mythologique hein, cette fois-ci, New Age, si l'intelligence sporique n'avait pas inséminé l'intelligence humaine.
Pour revenir aux abeilles, tu sais que l'intelligence végétale qui est évoquée, en fait, elle est comme une intelligence en essaim.
Un essaim.
Comme celle des poissons et des grands poissons.
Oui, oui, je vois ce que tu veux dire. Mathématiquement, ça donne lieu aussi à des grandes théories.
Oui, il y a vachement de...
Alors, il y a pas eu quelques comparaisons par rapport justement aux intelligences qu'on peut avoir dans une forêt avec tout le milieu racinaire qu'on parle aussi des saints.
Sur quel aspect?
En rapport avec la pensée de la plante, moi, c'est ce que je... Avec l'esprit des plantes, c'est ce que je disais. Mais c'est toi qui vois, sinon... on en parlera une autre fois, c'est comme tu veux.
Voilà, je ne me suis pas bien préparé spécifiquement pour ça.
Ah bon, non, pas de problème.
Je pense que ça tourne bien autour de ton sujet, là.
Pas de problème.
J'ai des choses à dire sur la chlorophylle, mais pas forcément.
C'est incroyable si tu fais parallèle aux oiseaux, par exemple, quand tu as des hirondelles que tu vois qui font limite des figures ou qu'on a énormément d'oiseaux, on n'a pas un seul qui se touche, en fait. C'est juste qu'ils arrivent à calculer, mais...
C'est des choses que je veux vous faire expérimenter, c'est un des sujets de pratique du séminaire.